Caravane Sérail, des portraits sensibles d'habitants de l'Aveyron et d'ailleurs, dans la chaleur de la nuit. Une émission proposée par CFM Radio. Caravansérail, bonsoir. En Orient, le Caravansérail est un abri pour les voyageurs. À CFM, les invités de Caravansérail livrent leur passion et leur petit jardin secret, impression, expression sur canapé et radio. Avant d'accueillir nos deux invités de ce soir, je vous propose la lecture d'un tanka, littéralement en chant court. C'est un poème japonais sans rime et sans titre. Un calice rose dans lequel s'épanouit notre fleur de sang. Ton pétale virevoltant se liane autour de ma tige. Bonsoir Lisa Gervasi.
Bonsoir Alain.
Bonsoir Tana Barbier.
Bonsoir.
Que vous inspire ce chant court que je viens de lire, Lisa?
Ouh là là.
C'est la question piège qui démarre. Piège. Est-ce que vous voulez que je le relise?
Oui, je veux bien, oui.
Un calice rose dans lequel s'épanouit notre fleur de sang, ton pétale virevoltant se liane autour de ma tige. Lisa.
Ça me fait penser à quelque part l'enracinement, le lien évidemment, et peut-être l'avenir.
Est-ce que cela pourrait vous inspirer un projet photographique ?
Alors pour un projet photographique, oui, parce que ça fait 3 ans que je suis en Aveyron, donc forcément je m'enracine petit à petit, je crée des liens et puis je me projette de plus en plus vers l'avenir, donc avec ce paysage qui est vraiment très inspirant pour moi. Enfin, je crois que je comprends des artistes comme Soulages quand je vois la qualité de lumière qu'on a ici, très dramatique et à la fois... ouais, très très belle quoi. Donc du coup oui, ça me donne envie de continuer, de poursuivre des projets photographiques ici en Aveyron. Alors concrètement, quel projet, ça je sais pas encore. J'ai des petites idées, mais là pour l'instant je travaille sur des vieux projets qui sont plutôt encore en lien avec le Mexique.
Voilà. Tana, votre réaction par sur rapport à ce tanka?
Je trouve ça très joli. Par contre, je sais pas exactement ce que ça m'évoque. Je trouve ça touchant et charnel.
Pourriez composer là?
Je sais pas si je pourrais composer parce que je sais pas si je fonctionne comme ça avec des incitations de texte. Mais par contre, ça m'évoque des. Ça m'évoque des matières. Ouais.
Vous aimez la poésie tous les deux?
Alors moi, c'est vrai que la poésie, j'aimais beaucoup ça quand j'étais adolescente. Et pendant longtemps, j'ai arrêté de lire de la poésie. Et là, j'en reviens, en fait, parce qu'on a un très bon ami qui est poète, avec qui on a fait plusieurs projets, qui me refait découvrir et prendre goût à la poésie. Voilà.
Ouais, c'est un peu le même cas. Pareil, j'aimais bien pendant l'adolescence et j'avais arrêté d'en lire pas mal. Et je m'y suis un petit peu remis, justement, avec cet ami, là, Thibaut Martouret. On aime beaucoup son travail et c'est vrai que régulièrement, on fait des trucs avec lui. Et j'aime bien parce que c'est un mode pour moi un peu différent d'aborder les mots et je suis pas forcément toujours à l'aise avec le langage parlé. Enfin, quand il s'agit de moi parler. Et la poésie, c'est un truc que je trouve intéressant parce que justement on fait un petit pas de côté, on change un peu le rapport un peu solennel à la parole et ça devient autre chose. Et du coup là, ça me plaît pas mal.
Alors Lisa, vous êtes photographe.
Oui.
Comment êtes-vous venue à la photographie?
C'était
la question que je me pose.
Un très très long chemin et pas du tout évident en fait, bizarrement pour moi. Enfin, alors que ça a toujours fait partie de ma vie. Je pense que depuis toute petite, j'ai eu des appareils photo, jetables. Enfin, mon père, je crois que le premier truc qu'il m'avait offert, c'était un appareil jetable, enfin en plastique rose avec un Mickey dessus, je me souviens. Et c'était des petits flashs, alors je sais plus comment on appelle ça, mais ça éclatait, ça faisait une petite lumière en fait.
Flash cube?
Oui, je sais plus comment ça s'appelait en français, mais c'était jetable aussi. Donc ça, c'était mes premières expériences avec la photographie. Ensuite, à 15 ans, j'ai eu un premier boulot aux États-Unis, enfin, où j'étais assistante, d'un truc d'art pour les enfants. Et ma première paye, voilà, je me suis dit, je vais m'acheter un appareil. C'était un point and shoot à l'époque, un Nikon, je me souviens. Et donc j'ai commencé vraiment à faire de la photo en noir et blanc, etc., avec des personnes dans les marchés, tout ça. Mais jusque-là, je me disais pas encore, ah tiens, je vais faire photo. Après, quand j'ai fini mon lycée, moi, je voulais faire plutôt des études de cinéma, mais mes parents m'ont dit, ah non, non, il est hors de question, c'est pas sérieux. Donc, du coup, je me suis dirigée vers l'architecture.
Ça, sérieux, ça.
Ça, c'était très sérieux, effectivement. Trop, pour moi. Et du coup, quand on est reparti vivre au Mexique avec Tana, ça fait combien? En 2010, quoi.
Ouais,
c'était
9 ans.
Ouais, là, j'ai décidé de commencer à travailler dans le cinéma, mais c'était pas du tout un rapport à l'image, c'était plus à la distribution et aux ventes. Donc, c'était plus, on va dire, l'aspect commercial du cinéma. Mais ça m'a aidé et ça m'a donné envie d'apprendre à vendre, entre guillemets, mes propres projets, à comprendre un petit peu comment fonctionne l'industrie de l'art, appliquer à des bourses, etc. Et c'est vraiment qu'en 2018 que j'ai commencé à présenter mon travail photo, quoi.
Quelle est la photo qui vous a le plus marqué?
Des miennes ou en général?
Oui.
Oula. Ça, c'est une... Ah ouais, je pense que ça y est, je vois laquelle. En fait, c'était une que j'ai faite totalement par hasard. J'ai pas du tout contrôlé la prise de vue. Et quand je l'ai découverte, elle m'a vraiment touchée. C'était une photo qu'on avait faite au Mexique dans une presse. Alors non, comment on dit, une retenue d'eau.
Une retenue d'eau asséchée.
Ouais. Voilà, une retenue d'eau asséchée. Et donc ça faisait un paysage lunaire presque. On était dans un espèce de désert avec des personnages qui se déplaçaient. On voyait pas bien leur visage et puis c'était un peu fantomatique. Et je crois que c'était la photo que j'ai le plus aimée en fait finalement.
Et finalement, qu'est-ce qui déclenche l'envie de faire une photo?
C'est une obsession. C'est vraiment, je dirais, dès que je regarde des choses, j'ai envie de les enregistrer, quoi. C'est vrai qu'il y a, comme disait Susan Sontag, c'est un truc un peu de chasseur, quoi. J'ai un peu honte de l'admettre, mais c'est vrai. On collectionne, on est tellement accaparé par une forme de beauté. Enfin, il y a un truc qui te séduit totalement et t'as envie de le garder, de le montrer, d'essayer de transmettre ce que toi t'as ressenti, en fait, avec, cette intensité du regard, quoi, je pense.
Avez-vous des références qui vous ont donné envie de faire de la photo, justement? Des personnes qui vous influencent encore?
Alors, en général, j'ai pas une seule personne. C'est vrai que j'aime beaucoup regarder le travail des autres. Et je pense, et je regarde d'ailleurs des travaux vraiment très différents à mon travail personnel. Enfin, c'est pas nécessairement le même style, ni quoi que ce soit, mais ça peut être comme Nan Goldin, Antoine d'Agata, alors là, tout de suite, des exemples auxquels je pense. C'est vrai que je suis un peu nulle avec les listes top 10. J'aime beaucoup par exemple le travail de Gabriel Duplantier aussi, qui est publié justement à La Main Donne, qui est une maison d'édition qui est installée à Marcillac. Là j'ai pas du tout d'idée, désolée. Faudrait que je réfléchisse bien à cette question, mais c'est vrai qu'en général, ouais, j'aime beaucoup regarder le travail des photographes, que ce soit des photographes contemporains ou anciens. Enfin, je pense par exemple au tirage de Nadar, il y avait vraiment des trucs très jolis aussi. Je pense que c'est assez large et tout peut m'intéresser si c'est un travail qui est fait avec une forme d'authenticité, je pense. Voilà, c'est ça surtout qui me touche.
Que représente pour vous la photo? C'est une alchimie de technique et de sensibilité ou autre chose?
Oui, c'est sûr que ça, y a un aspect technique à maîtriser, mais après, je pense que ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'il s'agit d'un art de perception, et ça m'intéresse toujours de voir comment les personnes, ou en l'occurrence les photographes, perçoivent le monde qui les entoure et comment ils se mettent en relation avec, quoi, voilà. Là, je pense à un autre photographe, Julien Coquentin, qui est d'ailleurs à Véronèse. J'adore son travail aussi, donc voilà. Oui, ben après, je te ferai une liste.
Voilà, je note au fur et à mesure. Et j'aimerais connaître un peu votre œil photographique, votre style. Comment il s'est construit?
Il s'est construit. Ça a été, je dirais, un parcours un petit peu long aussi, parce que je pense que je suis un petit peu attirée par pas mal de choses, et comme j'ai pas eu une formation en photographie, du coup. Proprement dit, je suis pas allée en école de photo, etc. Donc ça a été très autodidacte. Et puis c'est vrai que j'ai un travail qui a du mal à être défini facilement, parce que je travaille dans un continuum en fait qui va de l'abstraction à la figuration. Donc du coup, Du coup, on peut pas dire que je suis que dans le figuratif ou que dans la photographie plasticienne. Enfin, voilà, je pense que je joue un petit peu avec ces deux mondes et aussi avec les échelles, quoi, en fait. Et je compose mes séries comme ça, quoi. Parce que, justement, ces différentes échelles me permettent de montrer des choses différentes à propos d'un même sujet. Donc, ça m'intéresse.
Alors, j'ai vu des articles élogieux vous concernant. Vous faites partie de la fine fleur de la photographie internationale.
Oui, bah, alors ça, c'était tout à fait une belle surprise parce que c'était genre une des premières résidences auxquelles j'ai appliqué. Et j'ai eu la bonne surprise d'être prise. C'était à Niort, en fait. Et du coup, c'était super. Il y avait Corinne Mercadier qui encadrait en fait cette résidence, et puis nous étions une dizaine de photographes d'un peu partout. En fait, il y avait une photographe géorgienne qui s'appelle Dina Anganova. J'aime d'ailleurs beaucoup son travail aussi. Une photographe iranienne, Negar Yegmayan, franco-chilienne, c'est Niadi Edlin. Enfin bref, on était un petit bouquet de photographes qui venaient de partout. Et au début, j'étais très stressée parce que je me disais, bon, moi, est-ce que j'ai ma place ici? Enfin voilà, j'avais très peur. Mais en fait, ça s'est très bien passé. C'était vraiment bienveillant et humain. Et ouais, c'était super, quoi. Voilà.
Votre œuvre raconte des histoires intimes et aborde des thématiques comme l'enfance, l'identité, l'existence, le lien familial et la mort aussi.
Oui, tout à fait. Alors oui, parce que enfin, j'ai l'impression que les sujets qui nous touchent personnellement, ce sont des sujets qu'on connaît bien et qu'on peut vraiment arriver à les ressentir fortement, et j'aime bien... En fait, travailler sur des choses qui me touchent réellement, en fait, pas plutôt que sur des concepts ou des choses comme ça. Et ces sujets-là, en l'occurrence, ça a à voir, bien sûr, avec mon histoire personnelle. Mais à chaque fois, j'essaye enfin, les projets sur lesquels je travaille, ils se développent sur une dizaine d'années en général. Donc, du coup, il y a quand même un moment pour prendre de la distance et puis le rendre un peu plus universel. Enfin, j'essaye de, voilà, en tout cas, de pas rester que dans moi, mais partir d'une expérience personnelle qui me touche et puis essayer après de la retranscrire. Voilà.
Je devine dans vos photos une certaine solitude qui serait exposée dans tous les sens du terme. Est-ce que je me trompe? Je ressens aussi une nostalgie du temps qui passe.
Oui, tout à fait. Alors la solitude, elle me paraît intéressante parce que c'est le moment où on est avec nous-mêmes. Voilà, enfin, et puis c'est la personne qui regarde les photos, j'aime bien qu'elle se retrouve toute seule aussi à regarder ses photos et à ressentir dans son intimité, voilà, recevoir ce qu'elle perçoit, en fait, puis vraiment l'accueillir, quoi. Donc du coup, ouais, je travaille beaucoup avec des photos, il y a peu de personnages, on se retrouve un petit peu comme moi j'étais au moment de prendre la photo, quoi. Donc du coup, ça me paraît toujours intéressant de faire ça. Et la nostalgie du temps qui passe. Alors ça, c'est étrange, oui, parce qu'il y a en fait, le temps, il est intéressant pour moi parce que, au contraire, plus il passe, plus je connecte avec la photo, en fait, parce que du coup, elle prend un sens qui devient clair pour moi. Et du coup, j'ai vraiment besoin du temps et je l'utilise plutôt comme ça. Ouais.
Première pause musicale dans Caravanserai, un clin d'œil à l'ami Philippe Pascal qui nous a quitté récemment. Le morceau Cold Blue Sky.
Le fil de l'eau a dénoué tes 17 ans, allait rouler. Coulent les jours, les nuits acides devant le vertige, derrière le vide. Cherche encore la vague éphémère et sauvage. Under a cold blue sky. Under a cold blue sky.
Vous écoutez l'émission Caravansérail sur CFM Radio 90.2. Retour sur notre première invitée, Lisa Gervasi. Quelles sont vos qualités et défauts de photographe?
Alors oui, les défauts, alors je dirais que je suis pas rapide, ça c'est un gros défaut, parce que c'est vrai que des fois on aimerait bien saisir
un instant,
voilà, et puis voilà, des fois je suis un petit peu compliquée, il y a des appareils où je prends plus de temps pour les régler, etc. Bon. Et des fois je manque, comme je manque un petit peu de confiance, des fois je manque de spontanéité, et je pense qu'il y a un peu, ouais, je dirais ces deux défauts-là. Et les qualités en tant que photographe, je prends mon temps. Par exemple, quand je photographie des personnes, ça aussi un bon côté, c'est que du coup, je reste pas dans le superficiel. J'essaye vraiment d'établir une relation avec les personnes, qu'elles oublient en fait l'appareil photo. Et je pense que ça détend en fait un petit peu l'atmosphère au bout d'un moment, quoi. Enfin, du coup, ça a des retours positifs. Et puis, l'autre côté, c'est que j'adore faire ça, donc ça, c'est un bon point, je pense aussi.
Quel est le type de photo que vous détestez?
Alors, des photos que je déteste, c'est un grand mot, plutôt qui me touchent pas. C'est des photos trop lisses, des photos, qui sont presque publicitaires, je dirais. Ça me touche pas trop. Ouais, trop de mise en scène. Enfin, la mise en scène, ça peut être intéressant, mais c'est vrai que, bah, par exemple, là, il y a un photographe qui s'appelle Aymeric Luisset, qui est en fait le photographe invité à la résidence 1+2 à Toulouse. Et lui, il travaille sur le conflit, mais il s'exprime à travers des mises en scène, en fait, de conflits, quoi. Et c'est très intéressant. Donc, ça peut être intéressant. Mais il y a d'autres photos qui sont plus, on montre des objets, etc., pour parler de choses profondes. Et c'est vrai que ça me touche moins. Voilà.
Et quel est le type de photo que vous aimez, justement?
Oh, ça peut être très varié. Ça peut être de la photographie documentaire, de la photographie plasticienne, enfin vraiment, ou même de rue. Hein, enfin, encore une fois, c'est pas vraiment le style qui m'attire, c'est plus la manière de faire la photo, quoi. Et si je sens qu'il y a un truc fort et qu'il y a un truc honnête, voilà, ça va forcément m'attirer.
Et comment vous choisissez les clichés que vous allez exposer?
Ça, c'est très difficile pour moi. J'ai vraiment du mal à synthétiser. Ça, c'est je dirais que ça aussi, c'est un défaut, quoi. C'est vraiment faire la sélection, parce qu'il y a des photos. Elle me raconte des choses, je me dis tiens, elle est intéressante, etc. Mais pour les éliminer, des fois, j'ai du mal à laisser aller, quoi. Et c'est vrai que c'est autant vrai pour mes photos que pour les choses que j'ai à la maison. J'ai du mal à faire le tri, donc voilà. Mais bon, au bout d'un moment, encore, j'utilise le temps, en fait. Je les laisse reposer, puis quelques temps plus tard, je les revois, et puis là, ça devient très clair, au bout d'un moment.
Vous avez récemment travaillé avec un poète. Comment s'est produite cette rencontre?
Alors, Thibaut Martouret, c'est à la base un ami de Tana Barbier, qui est invité ici, qui nous parlera après.
Tout à fait, s'il est sage.
Et du coup, bah, Tana, ça fait quoi, 14 ans bientôt qu'on se connaît.
Oui, ouais.
On est ensemble.
Et avec Thibaut un peu plus. Ouais.
Voilà, et donc du coup, j'ai tout de suite sympathisé avec lui, et on a commencé à faire des choses ensemble dès 2007, je pense, en fait, ouais, hein, à ouais, Paris. Ouais. Et puis, on avait fait un recueil, on a travaillé avec lui sur un recueil ensemble déjà en 2010, c'était par là, ouais, 2010-2009, quoi. Mais il s'avère que ce recueil, il est perdu, parce qu'on m'a volé la valise à l'aéroport de Mexico quand on est parti de là-bas pour venir s'installer ici en Aveyron. On m'a volé le disque dur. Voilà, c'était un vrai drame. Et ce livre, il s'est évaporé dans ce disque dur. Et du coup, en revenant ici, il nous a parlé de son nouveau recueil, « Quand moi, Tokyo s'anonyme », en fait, il nous l'a fait lire. Après, il est venu à la maison ici en Aveyron pour enregistrer, donc il a fait un enregistrement de lecture, en fait, des poèmes avec Tana, et puis les textes, ils nous ont vraiment beaucoup touchés, et moi ça m'a tout de suite donné envie de faire des images dessus, donc j'avais commencé à travailler sur des photographies qui ont d'ailleurs été exposées. Enfin, c'est grâce à ces photos que j'ai été sélectionnée à Niort, en fait, pour la Villa Perrochon. Et elles ont été exposées, donc voilà. Et après, on s'est dit avec Tana, mais tiens, ce serait chouette de faire une exposition autour du silence, puisque c'est le thème de ce recueil. Et c'est là qu'on a décidé de faire l'exposition à Teirac, à la cabane, ici en Aveyron.
On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs.
Oui.
Je me tourne à présent vers Tana, qui est compositeur de musique. Alors c'est un métier, une vocation ?
Ce serait plutôt une vocation, parce que le métier, finalement, bah, y a un peu de composition, il y a pas mal d'enseignement, enfin, ça dépend qu'est-ce qu'on considère entrer ou pas dans un métier. Moi, je pense que la musique, c'est une occupation dans laquelle certaines activités sont rémunérées, d'autres pas. Mais c'est ce que je fais, du début à la fin de la semaine. Quand je fais pas un peu de bricolage et du bois, quoi.
Et votre formation initiale?
Alors, ma formation initiale, j'ai fait 2 ans de physique-chimie à la fac.
Oh là là.
C'est, ouais.
Super.
Je suis un vrai geek, j'assume, il n'y a pas de problème. Par contre, ça m'a pas plu au point de continuer.
Dommage.
j'adore la physique, en fait, mais j'allais pas en faire mon métier. Après ça, j'ai fait une école de musique. À l'époque, c'était la guitare. Et c'était une école de musique actuelle, donc diplôme de fédération jazz, des trucs comme ça. Et après, je suis passé au conservatoire pour la composition électroacoustique, qui finalement est un peu plus resté mon angle d'attaque, on va dire, sur les années suivantes, quoi. Donc toujours la musique, mais cette fois moins la mélodie et le rythme, mais plus les timbres et la construction de choses un peu plus abstraites, on va dire, quoi.
J'ai vu que vous étiez médaillé d'or. C'est vrai.
Oui, parce qu'il paraît que l'art est un sport, en fait, c'est ça. Non, mais ils ont une manière de donner des prix quand on finit le conservatoire. C'est pas. C'est... Bon, ça fait plaisir, hein, mais ça change pas grand chose.
Et pourquoi l'électroacoustique ?
Justement, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé assez rapidement quand j'ai su que ça existait, même si au début, j'ai pas bien compris. En fait, finalement, ce que moi, j'en ressens avec le temps, c'est que c'est une manière d'ouvrir un peu, d'enlever certaines portes fermées un peu sur la musique. C'est-à-dire que jusque-là, pour moi, la musique, c'était écrire des notes qui avaient des durées, des hauteurs, et avec ça, on faisait une mélodie qui venait se poser sur une harmonie. Et il y avait quelque chose où il y avait toujours cette trame qui était là, quoi. Et le timbre, le son des instruments, finalement, c'était quelque chose qui me touchait, mais c'était quelque chose qu'il fallait utiliser pour dire une phrase. Et là, d'un coup, on passe à une musique où, en fait, finalement, le rythme, la mélodie, l'harmonie sont des rythmes de timbre. C'est-à-dire que c'est le son qui raconte quelque chose. Et donc, du coup, on n'est plus du tout restreint. On est, d'un coup, finalement, c'est la page blanche dans toutes les dimensions possibles, quoi. En termes de musicalité, il y a plus grand chose qu'on peut plus considérer comme faisant potentiellement partie d'une pièce. Et du coup, voilà, cette liberté-là, moi, m'a beaucoup attiré, quoi. En rentrant dans le détail, oui, il y a plein de choses que finalement on va se retrouver à pas faire parce que au nom de vouloir garder cette liberté, par exemple, on met pas de rythme ou des choses comme ça. Et moi, c'est justement ces choses-là qu'avec le temps, j'ai envie d'essayer de réintégrer un petit peu, quoi. Mais cette liberté, pour moi, c'était ça. C'était pouvoir utiliser le son, plonger dans le son comme matière d'expression, quoi. Vraiment.
Vous qui vivez en pleine nature, près d'un moulin, n'avez-vous pas envie de revenir à l'origine des sons, c'est-à-dire des sons de la nature que vous pêcheriez ici ou là?
J'en utilise déjà, en fait. J'en utilise pas mal. Et en fait, moi, je me rends compte qu'avec le temps, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est essayer de brouiller un petit peu la frontière entre ce qui est naturel et ce qui ne l'est pas. J'aime bien quand on n'est pas vraiment sûr, ou alors qu'on se dit tiens, ça fait 2 minutes que ce son, je croyais que c'était de l'eau, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui parle, ou le contraire. Je trouve que ça fait naître une interprétation beaucoup plus poétique de l'univers dans lequel on baigne à ce moment-là. Donc du coup, j'en utilise beaucoup. Par contre, je les assume pas forcément très souvent tels quels. C'est-à-dire que quand un son est trop reconnaissable, ce qu'on va appeler des sons anecdotiques. Moi, ça me séduit moins que quand d'un coup je me dis tiens, ce son, c'était un placard ou un bébé ? C'était peut-être un synthé. Ça m'intéresse parce que tout de suite dans mon cerveau, il y a les 3 interprétations qui sont possibles. Et en fonction du reste de la musique, du reste des autres sons et de l'interprétation du moment, je vais partir sur l'une ou sur l'autre. Mais donc il y a une espèce de potentiel qui est décuplé par le côté un peu abstrait. Mais si j'y pense, c'est que ça m'évoque quelque chose. Et donc, émotionnellement, il y a quelque chose qui passe. C'est peut-être un bébé qui pleure. J'ai une petite boule dans le ventre. Et puis après, je me dis, ah non, en fait, c'était une porte. Tout va bien.
Les musiciens d'électroacoustique que vous appréciez tout particulièrement ?
Alors, c'est un peu comme Lisa, j'ai du mal à faire avec les listes. J'aime beaucoup Christian Zanesi, ça c'est sûr, que je trouve assez classique finalement, mais pas que. J'aimais beaucoup la Christine Groult que j'avais eue comme prof au conservatoire. Et après, il y a plein de choses différentes par-ci, par-là. Par contre, c'est vrai que j'écoute pas si souvent que ça de la musique électroacoustique pure que ça, quoi. Justement parce que j'aime bien aussi quand ça vient se frotter aux musiques, on va dire, plus mélodiques, rythmiques, normales. Et j'aime bien le mélange un peu de tout ça. Et j'aime bien les gens qui travaillent dans les matières, comme Dev Prod, par exemple, qui fait pas du tout de la musique électroacoustique, mais qui a des approches qui, pour moi, le sont complètement. Ou de la musique qui, pour moi, est électroacoustique dans sa composition, même si elle utilise d'autres instruments comme la musique spectrale, comme Fausto Romitelli ou des choses comme ça. Enfin voilà, du coup, je vais voir des liens avec d'autres choses, même si pour moi, ça fait partie du même univers, mais c'est plutôt presque la manière d'utiliser le crayon, la manière de composer, que réellement les éléments qui vont composer, etc., etc.
Alors, nouvelle pause musicale dans Caravanserai, Tana Barbier dans ses œuvres. Tana, une présentation de ce morceau, ça concerne les oiseaux.
Ah, la disparition des oiseaux. Voilà. Alors ça, c'est un projet qui a quelques années maintenant. C'est de la musique, pour le coup, qui n'est pas du tout électroacoustique. C'est de la musique électronique avec un rythme, une mélodie, etc. C'est quelque chose que j'avais fait justement en me disant, tiens, j'en ai un peu ras-le-bol là tout de suite de faire des choses abstraites. Je vais faire des morceaux qui font 3-4 minutes avec un truc que moi j'estime chantable à peu près. Enfin, quelque chose de, on va dire, normal, quoi. Ce que j'appellerais normal. Donc la disparition des oiseaux. Thank you.
retour sur CFM Villefranche 90.2 à l'écoute de Caravanserail. Alors Tana Barbier, vous allez à beaucoup de concerts, vous l'avez dit, et vous travaillez en même temps en solitaire dans votre moulin.
Pour ce qui est de la composition, oui, je travaille. Enfin, c'est un peu pour ça qu'on est venu dans l'Aveyron. On voulait être justement un petit peu tranquille en fait, c'est-à-dire ne pas, enfin pour moi, ne pas faire de bruit et déranger les autres et ne pas avoir le bruit des autres qui me dérange. Et par bruit, j'entends absolument tout ce qu'on peut avoir un peu en trop grande quantité en ville, quoi. Des suggestions, des incitations, des etc. Donc du coup, là, ce que je recherche effectivement, c'est ça, c'est un peu d'être tranquille dans mon coin. Je vais chercher les inspirations à l'extérieur. Par internet, on n'est pas complètement reclus, mais au moins le matin, je me réveille à un moment où je me pose. Ben, il y a pas de suggestions extérieures. C'est un peu une espèce de table rase tous les jours, quoi. Et cette tranquillité là, ben justement, c'est ce qui me plaît dans cette vie là, quoi.
Et la composition, vous y travaillez tous les jours? Y a-t-il des moments plus propices, la nuit?
Non, moi je suis plutôt du matin pour ce qui est de la composition. Par contre, c'est même très 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 clairement le matin. Quand j'étais plus jeune, c'était un truc de la nuit, parce qu'il y avait cette espèce de bulle protégée où il y a pas le regard des autres, il y a pas, enfin, l'oreille des autres en l'occurrence. Mais non, là maintenant, ce qui me plaît, c'est le matin. J'ai l'impression que la nuit, je peux divaguer pendant des heures, avoir 54 idées, je me réveille, j'écoute et je sais tout de suite lesquelles étaient les deux bonnes et les 51 mauvaises, quoi. Donc du coup, en fait, c'est vraiment le matin que j'ai quand je me réveille, je petit déjeune rapidement, je m'y mets et tout est très très clair, c'est très facile. Ça veut pas dire que tout est bien, mais au moins c'est facile, quoi. Et par contre, c'est pas du tout régulier. Il y a des périodes où bon, il y a les choses qu'il faut faire de la vie qui font qu'on a plus ou moins de temps à dédier à ces choses-là. Mais surtout, des fois on a le temps et on n'est pas dedans. Et des fois on aimerait bien y être, mais on peut pas y être, quoi. Et en fait, avec le temps, c'est la seule chose où ça s'améliore un peu, c'est de reconnaître ces moments-là et pas les forcer. Pour moi, c'est un peu ça, quoi.
Qu'est-ce qui est le plus difficile, composer un morceau ou jouer en direct?
Y en a un qui est difficile, mais on a le temps et justement c'est l'opportunité d'arriver à vraiment faire quelque chose de très précis pour ce qui est de composer un morceau. Mais l'autre, c'est une difficulté dans le sens où c'est tout de suite que ça se passe et si c'est raté, c'est raté. Donc je dirais que c'est pas du tout les mêmes enjeux, les mêmes stress. Pour moi, c'est plus facile de composer puisque je peux revenir jusqu'à être content du résultat que quand je joue en live. Si j'ai raté, j'ai raté. Et puis voilà.
Vous arrive-t-il d'improviser en concert?
Oui, toujours, ouais, toujours. En fait, enfin, en tout cas, ce qui est de mon projet Source, où justement, c'est une sorte de musique électroacoustique en live. L'improvisation fait vraiment partie du concept. Je voulais quelque chose qui soit justement à mi-chemin entre les deux, parce que pour ce qui est de la musique improvisée expérimentale, souvent j'ai personnellement une frustration qui viendrait d'un manque de trame, d'un manque de direction. Donc j'aimerais que ce soit plus composé, mais quand je vois de la musique concrète en live, c'est souvent plutôt des diffusions, c'est-à-dire que la pièce, elle est déjà écrite, elle est déjà composée, terminée, elle est sur un CD, mais on fait play et on joue sa spatialisation en live, en fait. Du coup, c'est exactement la même chose que sur le CD, seulement vient intervenir la spatialisation, quoi. Moi, je voulais justement essayer de trouver quelque chose qui soit entre les deux. Donc, je compose, je fais des pièces que je vais soit mettre telles quelles sur une cassette et utiliser ça comme base pour improviser autour, soit c'est des blocs, des bribes que je me mets un petit peu justement pour avoir des choses qui soient déjà pré-composées, on va dire, et qui me permettent de rebondir là-dessus, suivre, contrecarrer, poser, faire autre chose. Mais j'ai mon vocabulaire de choses où justement le temps est déjà écrit, quoi.
Le rêve que vous aimeriez réaliser en tant que compositeur?
Je pense juste que la musique que je fais trouve un public, qu'il y ait des gens qui tombent dessus d'une manière ou d'une autre et que ça leur plaise. Que ça leur plaise vraiment. Moi, j'ai toujours eu cette idée qu'il valait mieux plaire vraiment à deux ou trois personnes que 50 personnes trouvent ça sympa, quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que j'ai envie, c'est trouver des endroits où voilà, cette musique est écoutée, reçue et bien accueillie, et voilà, quoi, et pouvoir continuer à le faire.
Quels sont vos projets?
Alors il y en a pas mal. Il y a des choses qu'on a envie de faire justement avec Lisa sur des travaux qui seraient justement un peu entre le travail visuel de Lisa et mon travail sonore. On aimerait trouver des nouvelles manières de l'articuler. Moi, je travaille un petit peu avec un autre photographe, Gaël Bonnefou, Pardon, je me suis trompé. Donc j'ai ce travail-là. Je fais toujours les choses tout seul de source. Je commence à jouer un peu en groupe aussi, des tas de choses comme ça. Voilà.
Nouvelle pause musicale dans Caravanserai. L'occasion de découvrir Lisa Gervasi en chanteuse. Tout de suite. Vous êtes à l'écoute de CFM Villefranche, 90.2, en compagnie de Lisa Gervasi, qui chantait. Alors, comment s'est passée cette chanson? C'est vous qui l'avez écrite, je crois.
Alors, les paroles, ouais. En fait, c'est Tana qui a composé la chanson et qui m'a tout de suite plu. Et ça m'a d'ailleurs très rapidement inspiré à écrire un texte dessus. Comme j'expliquais tout à l'heure, c'était un un texte qui était un peu inspiré des poèmes de Sylvia Plath, donc du vocabulaire un petit peu issu de ses poèmes, enfin comme time foams to light, le temps qui se, comment on dit foam en français, qui se transforme en fait en lumière, mais comme une sorte de mousse légère, quoi. Enfin voilà, bref.
Belle image.
Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme ça que c'est sorti.
Projet de concert, alors, sous cette forme ?
Ça, c'est la grande question, parce qu'à la base, c'est un projet qu'on a initié dès notre retour en France, donc en 2016. On avait l'envie, voilà, de faire des morceaux, bah, surtout pour s'éclater, en fait, hein, vraiment passer un bon moment, faire de la musique qu'on n'oserait pas faire dans un autre contexte. Explorer un peu de la pop, quoi, en fait, parce que du coup, c'était pas du tout l'univers à la base. Et puis les concerts, je sais pas, pour l'instant j'avais pas l'idée de faire ça. Tana, je sais pas, toi, ce que t'en penses.
Moi j'en pense que ça pourrait être très sympa, mais je pense que c'est pas moi qui vais me retrouver à devoir chanter devant des gens, donc c'est pas trop à moi de décider, parce que c'est pas
après,
évident.
Je pense qu'il faudrait qu'on trouve une formation, faire des répètes, moi me mettre à l'aise aussi avec l'idée de jouer avec d'autres gens, parce que comme je suis pas musicienne à la base, j'ai une manière de travailler qui est très particulière, et je pense que pas tout le monde, enfin les gens qui sont un peu pros et qui tout de suite voilà se mettent dans le bain, enfin dans leur instrument, etc., ils vont peut-être pas comprendre mes hésitations, enfin et mes peurs, quoi. Et du coup voilà, j'appréhende un petit peu tout ça, mais sinon ouais, pourquoi pas
des petites salles comme l'horloge,
oui,
ou les haut-parleurs,
mais là
Villefranche.
On a un copain qui nous tanne voilà, pour jouer en avril, donc faire des reprises. Donc, du coup, on serait dans le pop. Je
au
sais
Guingois,
pas encore,
Marciac,
mais je pense que
je
ça va être à Marcillac. Ouais.
On verra si ça se fait ou pas.
Alors, comment travaillez-vous ensemble tous les jours dans la campagne à Véronèse ?
Chacun dans sa chambre. Non, pour l'instant, en fait, on a une chambre chacun pour travailler. Mais en fait, on est en train de préparer notre espace de travail. Donc, c'est un ancien petit moulin. Tana, il aura la mezzanine, voilà, pour faire sa musique. Et moi, de temps en temps, je viendrai emprunter le rez-de-chaussée. Donc, l'idée, c'est ça. Et sinon, voilà, on passe quand même une bonne partie de la journée à être chacun devant son ordinateur, hein, je pense.
Ouais, après ça
dépend. La guitare.
Ouais, voilà, moi c'est en ce moment c'est la guitare, des fois c'est les machines avec source, des fois c'est l'ordinateur, ça dépend des moments. Mais ouais, on est pas mal chacun de notre côté. On se retrouve de temps en temps pour manger.
Ah, quand même.
Ouais, ça, entre 12h et 17h, je pense, selon les jours, selon si on est sur les horaires mexicains ou si on est revenu sur les horaires. Mais non, mais c'est vrai qu'on a une vie du coup en ce moment où on a beaucoup de plages en fait qu'on remplit avec du boulot, et on sait pas exactement des fois on sait pas quel jour de la semaine on est, quoi. Mais voilà, on fait beaucoup de temps chacun dans notre coin, un peu dans notre bulle de création, quoi.
Il y a des mises en commun pour superviser le travail de l'un ou de l'autre.
On discute pas mal. C'est vrai que des fois, je pense que Lisa, c'est pareil. On a le fait d'être seul dans son coin. Des fois, on a un peu besoin d'avoir du recul, on a du mal à avoir un avis sur ce qu'on a fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est vraiment pas bien du tout? Est-ce qu'il y a des choses à retravailler, etc. Donc, on échange pas mal sur ces choses-là. Et puis ça, c'est souvent quelque chose qu'on fait dans les moments où on se retrouve, on mange, on fait quelque chose. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'échanges, quoi. Voilà.
Et comment s'élaborent les projets en duo ? Prenons par exemple l'exposition qui s'est déroulée dernièrement à la cabane.
Je pense que celle-là précisément, l'exposition est née de l'opportunité de faire une exposition. On a connu le lieu, la cabane, on est allé voir, on a trouvé ça super, on a rencontré Christiane Falip, c'était une chouette rencontre, et on s'est dit qu'on avait envie de proposer quelque chose, et du coup la question suivante c'était quoi. Et c'est là qu'on a pensé effectivement au travail sur le silence qui vient du livre de Thibaut Martouret, Comme moi Tokyo s'anonyme, mais qu'on a décidé de prendre un peu à notre manière. Donc une manière un petit peu plus, moi je dirais plasticienne en général. On est vraiment plus dans l'expérience dirigée que réellement dans la narration de quelque chose. C'est une expo où le but c'était que les gens rentrent et en se baladant aient une expérience sensible du silence. Et c'est venu de discussion entre Lisa et moi. Et je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, en fait, une trame dans son travail et dans le mien, quelque chose de ne pas forcément expliciter trop. ce qu'on est en train de raconter, mais le faire ressentir. Et donc, du coup, c'est un vocabulaire commun qu'on a trouvé assez rapidement et qui est né, bah, voilà, du lieu aussi, en fait. L'endroit donne envie, je trouve, de l'habiter un peu de cette manière-là, quoi.
Et Lisa, vous avez d'autres projets en duo pour cette fin d'année, pour l'année prochaine ?
En duo, on aimerait bien appliquer ensemble à une bourse en fait de création. Donc ce sera sur un projet photo, mais bon pour l'instant c'est en cours. Mais non, on n'a pas d'autres projets en cours, hein, Tana. Enfin à part notre musique, enfin le groupe de Guilty Pleasures. Donc c'est le projet pop. Sinon, non, pas d'idée particulière. Là, c'est vrai que on aimerait bien pouvoir trouver des résidences de création où on puisse au moins payer la production, parce que c'est vrai que je pense que la vie d'artiste, c'est bien, mais c'est difficile. On a besoin, voilà, de trouver des moyens de au moins subventionner notre travail, quoi. Ouais.
Vous avez vécu quelques années au Mexique, vous avez eu une vie artistique riche là-bas.
Oui, ouais, ça c'était super. Et c'est vrai que le retour en France, c'était un petit peu effrayant, quoi, parce que bon, on commence de zéro, je dirais. Et en plus, on est à la campagne, enfin, on n'avait pas du tout l'habitude de vivre isolé comme ça. Enfin, on y prend plaisir. Et je pense que là, cette troisième année, ça se passe de mieux en mieux. On fait des belles rencontres. Voilà, mais c'est vrai qu'au Mexique, on s'est bien, bien amusé. On a fait pas mal de choses, notamment en musique, en fait. Hein.
Notamment en musique, mais c'est vrai qu'il y avait une effervescence là-bas qui était assez facile. Les gens étaient très, très enthousiastes. Du coup, on avait un groupe de musique expérimentale à l'époque, Mister Eddie, ça s'appelait, avec Lisa. Et on s'est retrouvé à faire plein de concerts en 2 ans. On s'est retrouvé à faire facilement, mais je veux dire sans réellement chercher à faire des concerts. On s'est retrouvé à jouer dans des festivals où il y avait... Il y avait énormément de monde dans plein d'endroits, des endroits officiels, des musées, des trucs et tout. Et c'était très sympa. Il y avait vraiment une effervescence assez, assez tonifiante là-bas, quoi. Et du coup, moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, cet aspect-là, quoi. C'est vrai que c'était incroyable. Hein. C'était très, très, très différent de la vie parisienne qu'on venait de quitter avec grand soulagement. Donc, voilà.
L'émission touche à sa fin. Quels sont vos coups de cœur, cinéma, livres, concerts, théâtre, spectacle vivant, exposition? J'en passe et des meilleurs.
Là, j'ai une idée.
Ah, super!
Oui, parce qu'en fait, justement, je suis passée à la médiathèque de Rodez hier, et là, il y a un spotlight sur la génération beat, en fait, américaine. Et il y a un super film que je vous recommande, c'est Shadow. C'est un de mes films préférés de Cassavetes.
Et Tana?
Bah, je suis sans idée, donc je vais suivre l'idée de Lisa, ce que je fais toujours quand j'ai pas d'idée, je lui fais confiance. Non, j'ai adoré Shadows, donc je seconde totalement.
C'est la fusion, hein, complète.
Ouais, c'est ça, totalement.
Avant de laisser la parole aux invités ce soir, pour la conclusion de Caravanserai, je vous propose le deuxième tanka de la soirée, qui nous est adressé par la revue tankafrancophone.com. Sur ses seins soyeux, la dentelle arachnéenne hérisse sa peau, du lacis des fils tissés, un téton tente de fuir. Les deux tankas de ce soir étaient extraits du recueil « À l'errance de mes hanches » de Christelle Gonzalves, poétesse française aux éditions du Tanka francophone en 2018. Vous disposez chacun d'une minute ou une fusion d'une minute. Vous pouvez chanter, improviser, déclamer, rouler des airs, que sais-je. Vous avez carte blanche dans la limite de la bienséance. Évidemment, nous sommes tout ouïes.
Alors, donc moi je pense que ce qui serait sympa, c'est de vous lire un poème, donc du recueil de Thibaut Martouet qui s'appelle « Quand moi Tokyo s'anonyme », publié aux éditions à Bordeaux. Donc j'ai choisi un qui me semble ni trop long ni trop court. Il s'appelle « Erratum, dehors, dehors ». Je vais essayer de le lire, hein, même si Thibaut il serait certainement meilleur que moi, mais bon, allez, je me lance. « Erratum, c'est réparé. La porte ferme, ratum, ratum. » Racle un peu dans son rail, coulisse en crachant poussière. Et gravillon, micro dans son sillon, mais ferme. Glisse jusqu'au loquet, le mécanisme clique, s'enclenche, c'est réglé. Erratum, pas la peine de venir, merci la réparer. Je l'avais laissée ouverte, ça coinçait. Trop de gravillon, poussière, des brindilles même. Béante, elle avalait pollen, insectes, bourre de peupliers. Je ne reconnaissais plus le salon, n'était plus chez moi. Ne différenciais plus mon intérieur de ceux affichés sur le téléviseur. Lors des émissions de ménage de la dernière chance, chez moi n'était plus chez moi, plus personne. toutes ces particules comme de la friture entre moi et moi, des brindilles même. Une bonne guerre, je commençais à dire. Bonne guerre, grand nettoyage, mais c'est fini. La porte a claqué. Dehors, tu peux rester chez toi. Reste où tu es. Elle coulisse, clenche, ferme. Et si tu es déjà en route, promis, dehors, je te défrayerai. Mais ne te présente pas à ma porte réparée. Fais demi-tour. Dehors, si besoin est. Il n'y a plus rien qui ne va pas. Plus rien ici pour toi, dehors.
Bonsoir et merci Lisa et Tana. Au plaisir de vous rencontrer dans les expositions, les résidents d'artistes, les concerts et ailleurs. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand merci à Lucas et à Ellie qui étaient aux manettes ce soir pour la mise en onde impeccable. À bientôt sur les antennes de CFM Radio 90.2. On se quitte avec Ejo et Willy Doyle.
In your hand, I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? I'm going to see my woman. I heard she done messed around with some other man. You know I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm going downtown. Gonna buy me blue steel 44. When I catch up with that girl, she won't be fooling around on me no more. Gun in your hand. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Well, I'm gonna see my woman. I heard she done messed around with some other man. I say, hey Joe, I heard that you shot your old lady down. You shot your woman down. He said, yes, I did. Cause I caught her messing around. Get out of town. I said, hey, hey, Joe, you better lay low, man, and get out of town. He said, I'm going downtown, and I'm gonna buy me a passport C-R-C. Then I'm going way down Mexico way. Ain't no hangman gonna put no noose around. Shut her down. Just cause I she goes.